Scandale dans le monde de la culture, l'ancien patron du très prestigieux musée du Louvre mis en examen. Jean-Luc Martinez est soupçonné de blanchiment et de complicité d'escroquerie en bande organisée. En cause, une stèle en granit rose gravée au nom du pharaon Toutankhamon et une dizaine d'autres pièces acquises par le Louvre à Abu Dhabi et le très célèbre Met à New York. Problème, ces pièces sont d'origine illégale. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Vincent Michel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en histoire de l'art et en archéologie de l'Antiquité à l'Université de Poitiers. Vous êtes aussi très engagé dans la lutte contre le trafic. Alors, ça faisait 4 ans que l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels essayait de remonter les filières clandestines. Comment se déroule le travail d'enquête de cette institution ?
Alors, je ne commenterai absolument pas l'enquête, mais l'affaire en cours.
Les méthodes.
Mais ce qui est important, c'est que, en fait, on a véritablement, et c'est toute la grande difficulté de lutter contre le trafic, c'est que lutter contre les objets volés, ça, la police, les douanes, la gendarmerie, c'est faire. Parce que ce sont des objets qui ont été répertoriés, qui font partie d'une collection publique ou privée. La grande difficulté, depuis surtout avec des accélérateurs comme les printemps arabes, comme Daesh, c'est qu'on a affaire à de plus en plus d'objets qui sont pillés, c'est-à-dire des objets qui sont issus en fait de fouilles clandestines et auxquels on va imaginer en fait un pedigree, une histoire. Pour bien évidemment blanchir ces objets et afin qu'ils puissent, et c'est toute la difficulté, c'est qu'il y a un marché légal qui existe. Et donc ces objets illégaux vont être pulvérisés, si je puis dire, ou propulsés plutôt sur le marché légal. Et la grande difficulté, c'est que bien évidemment, comment fait-on pour les reconnaître ?
Alors justement, là on parle en l'occurrence de musées très importants, sans parler du fond de l'affaire. Est-ce qu'il existe des mécanismes dans ces musées très renommés pour éviter d'acquérir des œuvres douteuses ?
Alors, vous savez, la prise de conscience, elle est récente. Hein. Là, on a l'impression effectivement de découvrir en disant « Oh là là, mais il y a eu des problèmes dans les rouages ». Mais pas du tout. C'est vrai qu'on part du principe quand même hein, qu'on achète toujours de bonne foi. Hein. Et les trafiquants, maintenant, qui savent effectivement qu'il y a un marché légal qui est quand même très, très important, hein, très important et qui draine des sommes colossales. Eh bien, vont tout faire pour faire en sorte que vous puissiez acquérir ces objets. Alors, dans chaque musée, bien évidemment, alors je ne suis pas conservateur, je suis archéologue, mais dans chaque musée, il y a tout un système très, très rigoureux de vérification des acquisitions. Mais encore une fois, c'est une course, hein, c'est une course contre la montre. La difficulté de lutter contre le trafic des biens culturels est aussi difficile que de lutter contre les réseaux de stupéfiants, d'armes ou de blanchiment de capitaux. C'est ça, en fait, qu'il faut avoir à l'esprit. C'est que la lutte contre le trafic des biens culturels, on parle aussi bien des détectoristes qui le dimanche effectivement se promènent dans les champs avec leurs détecteurs de métaux, ce qu'on appelle la petite délinquance, mais c'est quand même une délinquance, jusqu'au crime organisé. Et donc c'est vraiment cet éventail en fait d'infractions qui est très difficile. Alors moi je suis plutôt optimiste parce qu'on en parle et que l'idée c'est que plus personne ne puisse plus dire « je ne savais pas ». Maintenant, il y a des risques de blanchiment. Et donc, derrière une antiquité peut se cacher une infraction. Donc, il faut rentrer dans cette exigence de vérification de traçabilité, de vérification, justement, dans la recherche de provenance. Et c'est là où, justement, moi, j'en appelle, bien évidemment, au marché de l'art, j'en appelle à tous les acteurs, mais aussi aux policiers, aux gendarmes, au ministère de la Culture, enfin, tous ceux qui sont impliqués, hein, et bien voilà, de se donner les moyens de lutter efficacement contre le trafic des biens culturels.
Ça a été mis à mal par les 2 ans de pandémie. On sait qu'il y a eu moins de contrôle, l'attention était portée ailleurs. Le nombre d'objets qui a circulé via ces trafics a considérablement augmenté.
Oui, ben vous savez, la destruction du patrimoine, le pillage des sites archéologiques, le trafic illicite des biens culturels, eh bien, sont systématiquement le résultat des temps de crise. Comme vous l'évoquez, effectivement, crise économique, crise politique, crise sanitaire, le patrimoine est à chaque fois la cible privilégiée de toute cette délinquance. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, on parle d'un commerce très rentable, hein, qui va alimenter effectivement une économie souterraine très importante. Et la prise de conscience que n'importe quel objet qui est facile justement d'accès, parce que comme vous l'évoquiez pendant la pandémie, c'est sûr que les sites étaient moins gardés. Et en plus, il y a eu un facteur aggravant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont retrouvés dans la pauvreté. Et la prise de conscience qu'un objet a une valeur financière, et puis la facilité de pouvoir acquérir cet objet, fait que Bien évidemment, la pandémie n'a pas inventé le trafic, n'a pas inventé le pillage, mais vraiment a été un facteur aggravant.
Et puis il y a le problème de l'origine des pièces, il y a aussi celui de l'usage de l'argent de la vente, en l'occurrence dans l'affaire qui a été révélée cette semaine. Cet argent pourrait avoir servi à financer le crime organisé et le terrorisme. Vous nous parliez des fouilles sauvages qui permettent de voler des objets sur des sites historiques. Ça pose un autre problème, c'est que souvent, au moment de ces fouilles sauvages, les objets sont abîmés ou détruits.
Ah ben oui, c'est-à-dire que fouiller, c'est voilà, ça nécessite quand même un minimum de connaissances. C'est pour ça qu'on fait quand même des études. Hein. Un archéologue ne s'improvise pas, on ne s'improvise pas archéologue, on ne s'improvise pas dentiste ou chirurgien. Ça s'apprend. Et le propre de l'archéologue, moi ce que j'aime dans mon métier, c'est de raconter une histoire à partir des objets. Or, que font les trafiquants? Les trafiquants vont décontextualiser les objets. C'est-à-dire qu'ils vont retenir l'objet uniquement pour leur valeur marchande. Et donc, c'est pour ça que c'est dramatique. C'est dramatique parce qu'il y a de l'argent derrière. Et alors, ça peut être, comme vous le disiez, effectivement, un moyen de blanchiment. Mais c'est aussi une atteinte au patrimoine et une atteinte à notre histoire. Comment peut-on prétendre vouloir raconter une histoire si on n'a pas d'objet? On ne peut pas. Et donc, c'est vraiment une privation. À côté de cette économie de prédation, c'est aussi une atteinte dure et puis surtout irrémédiable, irréversible.
Donc, au patrimoine commun. Dernière question, parce que on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Le musée qui est concerné, c'est le Louvre à Abu Dhabi. Donc, on a entendu qu'il ne dépendait pas du Louvre de Paris. C'est quand même l'image du musée qui est atteinte. Comment fonctionnent ces filiales de grands musées?
Non, c'est-à-dire que les acteurs qui sont là pour sensibiliser, les acteurs qui sont là pour réprimer, font leur travail. Et donc, on est dans ce processus de vérification. Et c'est plutôt sain, en fait. Si on n'en parlait pas, ce serait ça qui ne serait pas sain.
Donc finalement, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on ait entendu parler de cette affaire et que des personnalités aussi reconnues que Jean-Luc Martinez.
Non, je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle.
Je ne dis pas que c'est une bonne nouvelle pour lui, mais j'entends voilà. Des enquêtes sont menées.
Oui, là, c'est pas une bonne nouvelle pour moi. Je préférais vous vanter les richesses de l'Irak, les richesses patrimoniales de la Syrie, et non pas de parler du trafic et des fouilles clandestines en Irak et en Syrie.
On est bien d'accord. Merci beaucoup, Vincent Michel, d'avoir été avec nous, maître de conférence en histoire de l'art et en archéologie de l'Antiquité à l'Université de Poitiers.